Bonjour mes frères, mes sœurs. Nous continuons le livre des Actes. Nous sommes rendus à la dernière étape des voyages missionnaires de Paul. Il a fait 3 voyages missionnaires à partir de l'église d'Antioche qu'il a envoyé. Il est sur le point d'arriver à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui le pousse à aller à Jérusalem. Il a fait une étape temporaire là, à Césarée. Donc, il est maintenant en terre de Judée. Il est à Césarée chez Philippe avec plusieurs de ses collègues. Mais le Saint-Esprit le pousse vraiment à ne pas s'attarder là. Il passe seulement quelques jours et il reprend la route vers Jérusalem à pied pour monter jusqu'à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit qui le conduit là l'a aussi averti à plusieurs reprises qu'il va subir à Jérusalem des persécutions. Il va être lié, il va subir des tribulations. On voyait cela au chapitre 20, versets 22 à 24. « Maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, qui est de rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc, c'est des liens et des tribulations qui l'attendent à Jérusalem, mais ça ne décourage pas Paul de s'y rendre pour poursuivre sa mission. Donc, on entre aujourd'hui dans la dernière section du livre des Actes, les derniers chapitres qui sont une section qui décrit en fait les liens et les tribulations de Paul. Il en a déjà subi des tribulations, on l'a vu dans ses voyages, mais sa dernière étape vraiment est caractérisée par cela, les liens et les tribulations. C'est le livre des Actes se termine d'une manière qui ressemble à l'évangile de Luc. D'ailleurs, c'est le même auteur, mais on voit que lorsqu'on suivait le parcours de Jésus dans l'évangile de Luc, on voit beaucoup de ressemblances avec le parcours de Paul dans le livre des Actes. Et le parallèle entre les deux personnages est frappant. Donc, Paul doit se rendre à Jérusalem au moment d'une grande fête. Il avait prévu d'abord y aller à Pâques, il n'a pas pu. Maintenant, il veut y être pour la Pentecôte, parce qu'il veut y être lorsque la ville sera remplie. C'est ça à quoi le Saint-Esprit le pousse. Et on sait que Jésus avait comme objectif de se rendre à Jérusalem pour Pâques. Et c'est là où il a fêté sa dernière Pâque avec ses disciples. Pendant que Paul est en route vers Jérusalem, 3 fois il est mentionné dans le livre des Actes qu'à Jérusalem l'attend la persécution, qu'il va être arrêté. Et dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus est en marche vers Jérusalem, 3 fois Jésus mentionne qu'il sera arrêté et mis à mort à Jérusalem. On va voir que Paul va être arrêté par des soldats à Jérusalem, et Jésus a été arrêté par des soldats aussi, saisi de force. Et on voit Paul aussi, à plusieurs reprises, qui s'agenouille, il se met à genoux pour prier avec les frères, ceux qu'il s'apprête à quitter, qu'il ne reverra probablement plus. Donc, il prie avec eux. On a vu Jésus aussi prier, et Luc utilise la même expression que Jésus s'est mis à genoux pour prier dans le jardin de Gethsémané, avec ses disciples, dans les derniers moments. On a vu les amis de Paul qui voulaient le convaincre de ne pas aller à Jérusalem. Donc, ils lui disaient, non, va pas là, tu vas... Le Saint-Esprit nous dit que ce qui t'attend, c'est des liens, des tribulations, tu vas être persécuté, n'y va pas. Mais la conclusion de tout cela, c'est au verset 14, c'est le dernier verset qu'on a vu la semaine passée, hein, du chapitre 21, qui dit « Que la volonté du Seigneur se fasse ». Donc, Paul les a convaincus que la volonté du Seigneur se fasse, même si je vais au-devant du danger. Et on a vu la même chose pour Jésus, où ses disciples ont tenté de le convaincre de ne pas se rendre à Jérusalem vers la destinée là, que Dieu lui avait préparée. Et Pierre a été leur porte-parole pour leur dire « Non, tu n'iras pas ». Mais quelle est la conclusion? Bien, Jésus l'a dit dans sa prière au jardin de Gethsémané, il dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Donc, les parallèles sont frappants entre Paul et Jésus. Les deux savent qu'ils courent devant le danger, qu'ils vont souffrir, mais ils mettent la priorité à suivre la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Si Paul est semblable à Jésus, c'est parce qu'il est son imitateur, en fait. Et le Saint-Esprit qui est venu habiter dans lui le rend capable d'imiter Jésus. Il a été transformé, Paul, on l'a vu dans le livre des Actes. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, Paul est vraiment un imitateur de Jésus, il lui ressemble. Et c'est surtout dans son attitude, dans son caractère qu'elle ressemble le plus à Jésus. Et lisons Acte 21, nous sommes rendus au verset 15. Je vous invite à tourner dans Acte chapitre 21. On va lire pour le moment les versets 15 à 26 et on va lire la suite un peu plus tard. Donc, verset 15 du chapitre 21. « Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée et nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, un disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et en l'écoutant, ils glorifiaient Dieu. Puis, ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre leurs coutumes. Et qu'en est-il donc? Certainement, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les et purifie-toi avec eux et charge-toi de leurs dépenses pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple. Il annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, on va arrêter ici pour le moment. Mais il y a certains traits qui ressortent du caractère de Paul qui ressemblent à Jésus. On voit en quoi Paul est un imitateur de Jésus dans son attitude. Premièrement, son désir d'unité. Pour Paul, c'est vraiment important que les chrétiens soient unis. Paul est comme un artisan de paix, il crée des liens, il désire que les chrétiens soient tous unis. On voit aussi son humilité, le caractère humble de Paul nous saute aux yeux. Et troisièmement, on voit qu'il a renoncé à lui-même, renoncé à ses droits, et comme on va le voir même plus loin, il est prêt à renoncer, s'il le faut, à sa liberté, pour la cause, pour Jésus. Donc, on voit d'abord que Paul recherche l'unité des croyants, d'abord dans le détail qui est mentionné, qu'il fait voyage vers Jérusalem, mais pas seul, accompagné de ses collègues, dont plusieurs sont d'origine païenne, mais aussi avec les disciples de Césarée. Donc, des disciples de Césarée l'accompagnent jusqu'à Jérusalem et ils sont probablement des chrétiens d'origine païenne, ce ne sont pas des juifs. Mais Paul ne voit pas de problème à les amener avec lui dans la capitale juive alors qu'il s'en va pour évangéliser des juifs. Et il accepte, une fois arrivé à Jérusalem, de loger chez un certain Mnason. Et il semble, d'après la manière dont c'est écrit, que Paul ne le connaissait pas. En fait, ceux qui le connaissaient, c'étaient les gens de Césarée. Il le réfère. Donc, il a bonne réputation. C'est un homme originaire de l'île de Chypre. Est-ce qu'il est d'origine juive ou païenne? On ne sait pas, mais Mnason, c'est clairement un nom grec, donc, typiquement grec. Ça ne serait pas étonnant qu'il était un chrétien d'origine païenne. Donc, on comprend que les disciples l'ont conduit chez lui, peut-être pour le protéger, pour protéger Paul, pour pas qu'il soit tout de suite confronté à la foule qui pourrait être agressive. Parce qu'il va être reçu, comme on dit en québécois, avec une brique et un fanal. Donc, il l'amène pour le protéger. Lorsqu'il est dit que Mnason est un ancien disciple, ou un disciple déjà ancien, comme la colombe le traduit, c'est pas dans le sens que Mnason était un disciple avant et maintenant il ne l'est plus. Ce n'est pas non plus dans le sens qu'il est un disciple ancien, comme dans le sens pasteur. Ce n'est pas le mot pasteur ici ou ancien, c'est le mot depuis longtemps, depuis les origines. En fait, on comprend que Mnason est un disciple de longue date, probablement de la première génération des disciples, et ça fait déjà 25 ans. Nous, on a survolé les actes assez rapidement, là, mais le début du livre des actes se passe à peu près 25 ans avant cette scène ici. Donc, c'était un disciple qui avait cru, probablement dans la première vague de disciples, là, les convertis à la Pentecôte ou peu de temps après. Donc, un chrétien fidèle qui a fait ses preuves et Paul est en sécurité chez lui. Le lendemain, Paul se rend chez Jacques. Donc, Jacques, il s'agit du frère de Jésus, comme on l'apprend. Il est l'auteur de l'épître de Jacques aussi, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et il semble manifestement qu'il est devenu le pasteur principal de l'Église de Jérusalem. Donc, c'est une des colonnes de Jérusalem, mais il n'est pas seul. Il y a un conseil d'anciens qui se joint à lui, justement, ce jour-là. Tous les anciens de l'Église, qui sont sûrement tous d'origine juive, sont avec lui, présents à cette rencontre. Et Paul y est avec ses collègues aussi, dont Luc, qui est le narrateur du récit, qui n'est pas d'origine juive. Donc, dans une même pièce, là, il y a des gens de plusieurs provenances, mais c'est beau de voir leur unité et la joie qu'ils ont d'être ensemble. Et c'est sûrement en geste d'affection qu'il est noté qu'ils se sont salués, en fait. On sait qu'à l'époque, les salutations, c'était pas juste « bonjour, comment ça va? » Il y avait des accolades, il y avait tout presque un rituel, mais ça prenait du temps à se saluer, là. Mais on voit que l'affection qui a émergé presque instantanément dans ce groupe, et tous étaient émerveillés d'entendre le récit de Paul qui racontait ce qui avait été fait dans toutes les nations, chez les païens, toutes les conversions qu'il y avait eues. Et ils étaient contents d'entendre cela. Il n'y avait pas de rivalité, ils n'étaient pas choqués. Au contraire, ils étaient dans la joie. Ils adoraient tous finalement un seul et même Dieu dans l'unité. Et c'est beau avoir cette unité-là. C'est probablement à ce moment-là aussi que Paul leur a remis l'argent qui avait été amassé lors de la grande collecte qui a été faite dans les églises. On voit ça, ce n'est pas rapporté dans le livre des Actes, au moment où ça a été fait, mais on sait par les Épîtres que Paul a organisé une collecte pour que les églises donnent en offrande, en aumône, les églises partout, là, en Asie, dans la Macédoine, dans l'Achaïe, pour venir en aide aux chrétiens de l'église de Jérusalem qui souffraient des suites de la famine. Donc, ils étaient en grande difficulté financière et on voit les églises qui s'entraident, qui se soutiennent financièrement. Et très probablement, là, très assurément que c'est à ce moment-là que Paul leur a remis le montant de cette collecte-là. D'ailleurs, il va le mentionner dans Acte 24. Il dit, « Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. » Mais on sait que ce n'était pas la seule raison pour laquelle Paul était à Jérusalem. Ce n'était pas simplement pour apporter une collecte, même si c'était important pour lui, mais c'était clairement pour continuer son œuvre d'évangélisation. Et ça, c'est un point important à saisir pour bien interpréter le passage ici. Si Paul se rend à Jérusalem, accompagné de ses collègues, et qu'il va rencontrer le conseil d'anciens de l'Église, c'est vraiment dans le cadre de sa mission. Il vient évangéliser les Juifs. C'est ce qu'il disait au verset 13 qu'on a lu la semaine passée. Il dit, « Moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Pour le nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il sera à Jérusalem, pour annoncer le nom du Seigneur Jésus, pour dire aux Juifs que le Seigneur qu'ils attendent, le Messie, c'est Jésus, qu'il est venu, qu'il est mort pour eux, qu'il peut être leur sauveur s'ils acceptent son offre de grâce. Et on sait que Paul a reçu un appel particulier pour évangéliser parmi les païens, mais il n'a jamais perdu son attachement pour son propre peuple, sa propre nation. Il ne peut pas oublier les siens. D'ailleurs, on l'a vu, dans toutes les villes où il a passé, il a évangélisé les Juifs, et non seulement les païens. Donc, il y revient finalement chez lui, chez les siens, qu'il a à cœur. Il témoigne dans ses lettres qu'il pleure pour eux. Même s'il le pouvait, il serait prêt à être anathème pour sauver ses frères, sa nation. Et il va d'abord, c'est ça qui est un fait quand même important, Il va d'abord, le premier jour où il veut commencer à évangéliser la ville, il va d'abord rencontrer Jacques et les anciens. Ça montre son souci pour l'unité. Il ne va pas aller évangéliser tout seul, sans le concours de l'Église qui est déjà en place, ou indépendamment de l'Église. Donc, par souci d'unité, il va se présenter à eux. Et c'est comme évident que s'il y a des conversions, des nouveaux juifs qui se convertissent, qui deviennent chrétiens, ils vont être greffés, ils vont être intégrés dans cette Église qui est déjà en place. Et c'est une manière pour Paul de maintenir une unité et même d'avoir des collaborateurs comme Luc ou d'autres qui sont avec lui pour évangéliser parmi les juifs et faire un travail d'équipe. C'est malheureusement la mode aujourd'hui pour certains de... C'est comme une nouvelle mode là, d'implanter des églises sans se soucier de savoir s'il y a déjà une église qui est locale. Bon, c'est pas toujours ça qui se passe, mais dans certains cas, on va implanter une église et parfois même à quelques coins de rue, à un coin de rue, ou presque dans la cour d'une église qui est déjà implantée, sans se soucier là, s'il y a déjà une église dans cette localité, sans aller consulter l'église qui est en place, sans l'impliquer dans le projet, sans recevoir leurs conseils. C'est pas une manière de maintenir l'unité. Là. Ça n'aide pas à l'unité. Au contraire, ça crée, on le voit dans certains cas, ça crée la frustration, la division, la confusion, même lorsqu'on évangélise. Une mauvaise compétition, c'est mauvais. Mais c'est pas ce que Paul fait ici. Il va aviser les dirigeants de l'Église qui s'en viennent évangéliser. Il leur raconte ce qui s'est passé dans tous les pays où il a évangélisé. Et il les implique, dans un sens, dans son ministère. Et il écoute leurs conseils sur comment approcher les Juifs. Donc, ce souci-là d'unité est vraiment à la ressemblance de Jésus, qui a dit qu'il voulait que ses disciples soient unis, tous ensemble, qu'il n'y ait pas de division, que ses frères et sœurs s'aiment les uns les autres. C'est le commandement de Jésus. Donc, on voit vraiment Paul, un imitateur de Christ, dans son souci de l'unité de l'Église. Mais cette unité-là, on voit que c'est directement lié à une deuxième qualité d'un imitateur de Christ, c'est l'humilité, un caractère humble. Et l'attitude humble de Paul se voit même dans la description qu'il fait du travail qu'il a accompli dans les nations. Au verset 19, il est écrit, « Il se mit à raconter en détail ce qu'il avait fait au milieu des païens par son ministère. » C'est ça? Non, verset 19, « Et il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. » C'est vrai que c'est son ministère. C'est vrai que Paul a travaillé fort, là, à la sueur de son front. Mais Luc résume tout ce que Paul dit et Paul a raconté en détail ce qu'il a fait. Ce n'était pas juste un petit résumé de statistiques. Là. Ça a dû prendre un certain temps, son histoire. Là. Il a raconté sûrement tout ce qu'on a lu dans le livre des Actes, et même plus, les détails, comment Dieu a agi. Et c'est de cette manière-là que Luc résume ce que Paul a dit. Il a raconté en détail ce que Dieu a fait. Donc, Paul a dû raconter la manière dont le Saint-Esprit a dirigé pour aller dans des directions, qu'il a fermé la porte dans d'autres directions, tous les miracles qui ont eu lieu par la puissance de Dieu, comment Dieu a appelé, a touché le cœur de certaines personnes qui se sont converties, les changements fulgurants qui se sont produits, que des gens timides sont devenus des évangélistes, que des gens attachés à l'argent sont devenus généreux. Toutes les transformations, là. La puissance de Dieu, c'est ça qui a fait le contenu du récit de Paul. Et la réaction du groupe confirme que c'était vraiment à la gloire de Dieu, puisqu'il dit qu'en l'écoutant, il glorifiait Dieu. Ils ne se sont pas mis à glorifier Paul, ils se sont mis à glorifier Dieu. C'est vraiment une marque d'humilité de Paul, mais d'une bonne humilité. Là. Et une autre preuve d'humilité, c'est qu'il écoute les anciens. Ensuite, les anciens lui disent, lui proposent finalement une stratégie pour approcher les Juifs de Jérusalem. Ou plutôt, lui indiquent qu'il y a un obstacle à l'évangélisation des Juifs. Mais ils lui disent, pour cela, là, écoute-nous, fais ce qu'on te dit. Va au temple avec quatre hommes qui sont parmi nous, qui ont fait un vœu. Et ils vont devoir se raser la tête, donc on comprend que c'est le vœu de Naziréa. Probablement le même vœu que Paul avait fait au chapitre 18, lors de son retour de voyage. Donc, il y a quatre hommes parmi nous qui ont fait un vœu. Ils doivent aller au temple. Va avec eux, et purifie-toi avec eux, associe-toi à eux et même paye leurs frais, parce que ça coûtait quelque chose pour avoir les animaux et toute la cérémonie. Paye toutes les dépenses pour eux. Et il accepte. Wow! Ça, on voit l'humilité de Paul. Ce n'était pas son plan, là, mais ils lui disent de faire cela, il le fait. Pourquoi est-ce qu'il lui propose cela? Mais c'est vraiment parce que Paul vient évangéliser les Juifs et il y a un obstacle. C'est que sa réputation le précède et sa réputation, malheureusement, est mauvaise. Parce qu'il y a des judaïsants, donc des Juifs qui veulent imposer les coutumes juives à tous et qui sont devenus des ennemis de Paul. Donc, on l'a vu, Paul s'est fait des ennemis parmi les Juifs dans plusieurs villes en Asie, dans la Macédoine, jusqu'à même en Grèce, et ces ennemis-là l'ont suivi, et il se trouve finalement à Jérusalem en même temps que lui. Mais déjà, même ça fait des années que Paul n'est pas revenu à Jérusalem, et ils ont parlé contre lui. Et Paul a mauvaise réputation, et beaucoup de Juifs à Jérusalem croient que Paul est comme en guerre contre leurs coutumes, contre la loi de Moïse. Supposément qu'il enseignerait aux Juifs à rejeter la loi de Moïse, donc rejeter tout l'Ancien Testament, rejeter la circoncision, rejeter toutes leurs coutumes. Leurs coutumes, c'est vraiment leur manière de vivre, les fêtes qu'ils fêtent ensemble, les fêtes annuelles, toutes leurs règles concernant la nourriture, ou la manière de gérer leur famille, mais tout ce qui est basé sur l'Ancien Testament. Paul, supposément, leur dirait finalement de ne plus être des Juifs, d'abandonner toute leur culture. Mais on sait que c'est faux. Paul va le dire même au chapitre 25, « Je n'ai péché en rien contre la loi des Juifs, ni contre le temple. » Ou dans Acte 28, aussi à la fin du livre des Actes, il dit, « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison. » Par contre, on dirait qu'il y a un fond de vérité ici. On dirait que ça sonne vrai parce qu'on a lu souvent dans les épîtres de Paul que Paul dénonce ceux qui veulent s'attacher à la loi. C'est vrai que Paul l'a fait, avec vigueur. Même, il va dire que c'est vain de vouloir retourner à la loi de l'Ancien Testament et que c'est même dangereux de vouloir s'attacher à la loi de Moïse, mais pas parce que la loi est mauvaise, mais parce que ceux qui avaient tendance à vouloir faire cela pensaient que c'est par la loi qu'on pouvait être sauvé, qu'on pouvait être justifié. Et Paul dénonce là pour dire, si vous retournez à la loi dans le but d'être justifié, dans le but de pouvoir entrer dans le royaume des cieux, d'hériter de la vie éternelle, d'être juste devant Dieu par l'observance des commandements, bien, vous êtes dans l'erreur, et même vous êtes voué à être condamné. C'est ce qu'il dit aux Galates, parce que les chrétiens de Galates, il y avait parmi eux des Juifs qui voulaient convertir tous les chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive, tous les chrétiens païens, à devenir des Juifs. Il leur disait, vous devez vous faire circoncire. Vous devez vraiment appartenir à l'Israël national pour être sauvés. Et Paul dit dans Galates 5, « Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Tu ne peux pas juste adopter la circoncision et quelques règles alimentaires ou autres. Si tu veux vraiment être justifié par la loi, tu dois la respecter à 100%. Mais il dit, finalement, si vous faites cela, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc, si en tant que chrétien, ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas obtenir le pardon de Dieu par leur propre justice, puisque tous sont incapables de suivre la loi. Et s'ils avaient compris que c'est par le sacrifice de Jésus qu'ils pouvaient être déclarés justes, par leur foi dans ce sacrifice-là, dans l'œuvre de Jésus, s'ils l'avaient compris cela, mais que plus tard ils retournaient à vouloir se justifier par eux-mêmes, c'est comme s'ils disaient à Dieu, « Ta grâce, ton pardon par ton Fils, on n'en veut pas. On veut mériter par nous-mêmes notre place au ciel, finalement. » Mais Paul dit, si vous faites cela, vous êtes déchus de la grâce. Donc, Paul revient souvent dans ses épîtres pour dénoncer cette mauvaise motivation de vouloir s'attacher à la loi, qui est de vouloir être sauvé par elle. Mais les vrais chrétiens juifs, ceux dont parle le conseil d'anciens ici, dans cette rencontre avec Paul, où il y a des dizaines de milliers de juifs qui ont cru, qu'ils disent qu'ils sont zélés pour la loi, ce n'est pas dans un mauvais sens, c'est dans un bon sens. Donc c'est dans le but, ce n'est pas pour être sauvés qu'ils s'attachent à la loi, mais c'est parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont connu la grâce de Dieu, parce qu'ils savent que maintenant, ils sont les enfants de Dieu, pardonnés, qu'ils ont la vie éternelle. Maintenant, ils veulent se consacrer à Dieu, et pour eux, la manière naturelle de le faire, c'est de s'attacher à la loi. Ils sont juifs, ce qu'ils connaissent, c'est l'Ancien Testament. Donc, c'est par consécration qu'ils le font. Et les chrétiens juifs ont bonne réputation, même en Israël et à Jérusalem, parce qu'ils sont plus zélés que le reste de la population pour l'obéissance à Dieu. Mais Paul, lui, est montré comme un traître à la nation. Mais ce n'est pas le cas. Ici, la preuve que le conseil d'anciens, ici, en parlant de cela à Paul, ne croit pas que c'est par la loi qu'on est sauvé, c'est qu'il ne l'impose pas aux païens. Et c'est ce qu'il rappelle ici. Il dit, quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, il y a quelques prescriptions qu'il leur demande de faire, mais il ne leur impose pas de pratiquer la loi de l'Ancien Testament. Si vraiment il croyait que c'est par la loi qu'on est sauvé, mais il dirait aux païens d'observer la loi pour être sauvés aussi. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Et je vous invite à retourner un petit peu en arrière au chapitre 15. C'est le fameux concile qu'il y a eu. On sait que Paul avait été envoyé par l'Église d'Antioche jusqu'à Jérusalem pour discuter de cette affaire-là, parce qu'il y a des Juifs qui étaient arrivés à Antioche, puis qui disaient aux chrétiens qu'ils devaient obéir à la loi pour être sauvés. Puis là, c'était une question qui était quand même, qui valait la peine de se poser. Est-ce qu'une fois qu'on a cru à Jésus, là, nous, on ne connaissait pas le Messie des Écritures des Juifs, est-ce qu'on doit adopter toute la loi de l'Ancien Testament pour être sauvés? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et ils envoient Paul à Jérusalem. Donc, au chapitre 15, si vous voulez revenir en arrière un peu dans votre Bible, verset 1, il témoigne, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Donc, c'était vraiment ça la question qui était en jeu, là. Comment on peut être sauvé? Oui, on croit en Jésus, c'est le seul chemin, mais est-ce qu'il faut en plus observer la loi pour être sauvé? Et si on n'observe pas la loi, dont l'entrée dans ce système de loi-là, c'est la circoncision, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas être sauvé? Ici, on va plus loin au verset 8, toujours au chapitre 15, verset 8. « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Ici, il parle des païens. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, les Juifs. « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères, nous-mêmes, nous n'avons pas, que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, c'est dans ce sens qu'il n'y a aucune distinction entre les Juifs et les païens, que toute personne sur la terre, le moyen d'être sauvé, c'est par la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus. Et le conseil d'anciens de Jérusalem était convaincu de cela. Maintenant, au verset 19, toujours dans le même chapitre, ils ne disent pas quand même aux païens de faire ce que bon leur semble, il y a quand même des contraintes qu'ils leur demandent de respecter. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car, et là on a la raison pourquoi ils demandent ça, car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Donc ici, le conseil d'anciens de Jérusalem est conscient, sait que dans toutes les villes où il y a des païens qui se convertissent, il y a des juifs qui sont là. Et ils veulent éviter qu'il y ait une brisure ou que l'unité ne soit pas possible avec eux, ou que les juifs dans les synagogues, soit scandalisé par le comportement des chrétiens. Et c'est quelque chose ici, là, c'est vraiment ce qui va scandaliser un juif. S'il voit des chrétiens qui mangent du sang ou des animaux étouffés, des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, ils leur disent, finalement, ne faites pas cela par égard pour les Juifs, par souci d'unité, pour ne pas être une occasion de chute et ne pas être un obstacle non plus à l'évangélisation. C'est ce qu'on voit dans les lettres de Paul. Au niveau du salut, il n'y a aucune distinction. Dans Romains 10, il dit, il n'y a pas de différence entre Juifs et Grecs. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, tous ceux qui font appel à lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, c'est toute une belle promesse. Et c'est soulageant parce que certains croient que, à cause du milieu où ils ont grandi, la famille où ils ont grandi, ou la localité où ils ont grandi, ou le pays, ou la culture qu'ils ont eue, ou les habitudes de vie qu'ils avaient, ils ne pourront jamais, finalement, être associés au peuple de Dieu, être un enfant de Dieu. Mais c'est faux. Quiconque, peu importe l'arrière-plan, peu importe les erreurs qu'on aurait pu commettre, les péchés, peu importe la gravité des fautes qu'on aurait pu commettre dans notre vie, quiconque invoque le nom du Seigneur, fait appel à lui pour être sauvé, va être sauvé. J'espère que c'est le cas. J'espère que vous avez invoqué le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé. Sinon, faites-le. Là. Croyez là, qu'il n'y a aucune règle religieuse, aucun code de conduite que vous pouvez respecter ou honorer, là, qui va faire en sorte que vous allez être déclaré juste aux yeux de Dieu. Si vous espérez vous justifier par un code de conduite, Dieu va toujours vous considérer comme injuste. Et la condamnation qui pèse sur vous ne sera pas enlevée. Mais si vous faites appel à Jésus, le juste, le seul juste qui a marché sur cette terre, qui est mort pour nous, qui a payé le prix de nos péchés, si vous croyez en lui, si vous invoquez son nom, vous serez pardonné, vos péchés seront lavés et vous serez déclaré juste aux yeux de Dieu et vous hériterez de la vie éternelle. Donc, c'est un acte de foi que Dieu demande. Dieu le Père a établi un seul moyen pour être sauvé, c'est qu'on fasse un pas de foi, qu'on dise « Ok, je renonce finalement à tenter par moi-même de me justifier. Je fais appel à Jésus, je crois qu'il est le Seigneur, le Sauveur. » Et à l'époque, il y a des milliers d'hommes qui l'ont cru, il y a encore aujourd'hui des centaines de milliers, des millions de personnes qui sont sauvées de la même manière. Une fois qu'on est sauvé, quel code de conduite qu'on suit? Bien, Jésus l'a enseigné à tous et aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est ça le commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Et ça, comment ça s'applique dans l'Église? C'est qu'on doit s'aimer les uns les autres. Maintenant, dans la vie de tous les jours, comment on pratique cela? Bien, ceux qui sont juifs ont tendance à continuer à conserver leurs coutumes juives et ce n'est pas nécessairement mauvais. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, finalement, que c'est mieux de ne pas perdre de temps à essayer de changer. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas là le nerf de la guerre. Là. Il dit dans 1 Corinthiens 7 que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. Bon, on comprend ici que lorsque Paul dit qu'il demeure circoncis, il n'est pas en train de parler littéralement de l'opération de la circoncision, qui est une opération irréversible. Mais il parle de, si tu as été appelé en tant que juif, demeure juif, c'est correct. Si tu as été appelé en tant que païen, demeure païen. Mais rappelez-vous que vous avez un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Dieu, une seule foi, une seule espérance. Pardon. Il va jusqu'à dire la circoncision, en fait, n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est les commandements de Dieu. Donc, c'est de faire la volonté de Dieu. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Par contre, c'est bon, comme on vient de le voir, de s'imposer certaines contraintes, certaines restrictions pour le bien de nos frères. Ça ne veut pas dire « faites ce que vous voulez, faites tout ce qui vous semble bon comme au temps des juges ». Donc, on s'impose des contraintes par égard pour nos frères, pour maintenir l'unité. Et lorsqu'il y a des cultures si différentes que la culture païenne et la culture juive, pour être dans une même assemblée, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Ça prend des restrictions, des compromis. Et en cela, les Juifs, à l'époque de Paul, avaient besoin de gagner en maturité. C'est pour ça que Paul les appelle, bien, il ne leur dit pas en pleine face, mais il les appelle les faibles. C'est une marque de faiblesse que de vouloir rester attaché autant à ses coutumes et de penser que c'est un sacrilège, un scandale de ne pas respecter leurs coutumes. C'est pas un péché, mais c'est une faiblesse. Et Paul demande aux forts, finalement, de respecter les plus faibles. Mais ils vont devoir grandir en maturité, les Juifs, et je crois que la lettre aux Hébreux va être écrite dans ce but-là, de leur montrer que Jésus est supérieur à la loi de Moïse, à Moïse, aux anges, à tout ce qu'ils ont connu dans l'Ancien Testament, que tout l'Ancien Testament, ce n'était qu'une ombre des réalités qui sont célestes en Christ. Et il va même, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit dans Hébreux 8, 13, « En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. » On doit la considérer comme ancienne, remplacée par la nouvelle. Elle est dépassée. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point même de disparaître. Je pense que ça s'est accompli lorsque le temple a été détruit en l'an 70, où l'armée de Rome a envahi Jérusalem, a détruit Jérusalem, a tout brûlé, a détruit complètement le temple. Depuis ce jour-là, il n'est plus possible d'observer à la lettre l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Malheureusement, à moins que je me trompe, les Juifs ne sont toujours pas, les Juifs devenus chrétiens ne sont toujours pas mêlés aux autres chrétiens. Ils font encore bande à part. Là, j'ai lu qu'il y a 350 000 chrétiens messianiques, des Juifs messianiques sur la terre. Je ne sais pas si c'est plus que cela. Mais habituellement, ils sont dans des cercles fermés. Ben, c'est correct jusqu'à un certain point, mais il ne doit pas y avoir de désunion quand même. Il doit y avoir un respect et on se considère comme étant dans la même famille. Paul est prêt à faire tous les compromis, on le voit. Lui, il est juif, là. Et comme il va le rappeler au prochain chapitre, il a étudié avec le meilleur des rabbins, avec Gamaliel. Et il est prêt à faire tous ces compromis-là. Et ça nous amène à une troisième qualité, la troisième des trois qualités d'un imitateur de Jésus. Donc, en plus du souci de l'unité et du caractère humble, l'humilité, on voit le renoncement à soi-même, être prêt à renoncer à ses droits, s'il le faut même à sa liberté. Ici, Paul n'était vraiment pas obligé d'aller au temple pour se purifier. Probablement qu'ils lui ont demandé de faire cela parce que lorsqu'on arrivait des terres païennes, on arrivait en sol, sur la terre sainte, on était considéré comme impur, souillé. Paul sait très bien que ce n'est pas le cas, mais il va le faire. Il s'associe avec des gens qui ont fait un vœu de Nazirea et il le fait par égard pour la population juive. C'est ça qu'il a fait partout. On est dans 1 Corinthiens 9. « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Même on apprend que Paul dit dans 1 Corinthiens qu'il a renoncé à beaucoup de choses qui étaient des droits légitimes, en fait. Il a renoncé à cela pour la cause. Il a renoncé à être marié alors qu'il aurait pu avoir une épouse. Il a renoncé à être rémunéré, donc engagé vraiment à temps plein par l'Église, que l'Église couvre tous ses besoins. Il a renoncé à cela pour la cause. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 12, « Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'Évangile de Christ. » Donc, s'il a fait ce renoncement-là à beaucoup de ses droits légitimes, c'était pour enlever des obstacles, ce qu'il considérait être un obstacle à pouvoir annoncer l'Évangile. Donc, ce qui était plus important pour lui, c'était la capacité d'évangéliser, que son témoignage ne soit pas terni par cela. Et ici même, on voit qu'il est prêt à renoncer à sa liberté, puisqu'il sait qu'il va être arrêté éventuellement à Jérusalem. Il sait qu'il va être emprisonné, mais il y va quand même, parce qu'il veut évangéliser les Juifs. Et lisons la suite du récit, où on ne va pas s'éterniser, parce que c'est plus un récit d'un événement ponctuel. Verset 27, Acte 21, verset 27. vers la fin des 7 jours, donc les 7 jours de purification au temple, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et ils portèrent les mains sur lui, en criant « Israélite, au secours! Voici l'homme qui enseigne partout et à tous contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. » Et il a même introduit des Grecs dans le temple et il a profané ce lieu saint. Car auparavant, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. Mais ils n'ont pas vérifié leur information. La ville entière fut secouée et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, la rumeur parvint jusqu'au tribun de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. À l'instant même, il prit des soldats et des centeniers et il courut à eux. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, et ne pouvant donc rien connaître de certain à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, donc sur l'escalier, là, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « À mort! » C'est troublant de voir cela, hein? Paul est animé d'un amour pour son peuple, c'est pour ça qu'il va vers eux, dans l'espoir qu'ils soient sauvés, qu'ils héritent de la vie éternelle, et eux crient « À mort! » On croirait entendre la foule qui criait « Crucifie-le! Crucifie-le! » Vraiment une haine qui est démesurée face à un Paul qui est totalement innocent ici. Donc on voit que la stratégie là, d'aller au temple pour se purifier, ça aurait pu marcher et ça aurait démoli en fait le mensonge des judaïsants, là, des ennemis de Paul. C'était une bonne stratégie pour montrer que Paul n'avait rien contre la loi. Il avait un grand respect pour les coutumes juives. Mais finalement, ça échoue parce que ses ennemis sont là. Ils le surprennent dans le temple en train de se purifier. Et s'ils avaient été honnêtes, ils auraient dû reconnaître que Paul était en train justement d'appliquer la loi. Donc, il n'a rien contre les coutumes juives. Ils ne prennent même pas le temps de vérifier si leurs soupçons sont fondés parce qu'ils ont une haine contre Paul qui les aveugle. Et ils ajoutent encore un mensonge que supposément Paul aurait introduit des païens dans le temple, alors que c'est faux. Mais là, toute la ville est en émoi en les entendant crier. Paul est traîné dehors du temple de force. Les portes sont fermées. C'est comme un signe hypocrite, là. Ils ne veulent pas que le temple soit souillé davantage. Ils veulent protéger la pureté du temple. Et là, Paul est amené dehors. Il est dit qu'ils veulent le tuer et ils le frappent. Donc, on ne sait pas si c'est juste avec des coups de poing, des coups de pied, peut-être quelqu'un a sorti un bâton, mais ils veulent le frapper jusqu'à ce qu'il en meure. On voit la rage qu'ils ont. Et Paul devait commencer à être magané hein, quand les soldats sont arrivés. Et comment le tribun l'a su, c'est qu'on sait qu'à l'époque, une tour avait été construite qui dépassait même la hauteur du temple, une tour romaine, et la cohorte y était. Donc la rumeur du tumulte, l'émeute finalement, là, ils en ont eu connaissance et le tribun est accouru. C'était le chef de la cohorte, le chef romain. Il est venu avec des soldats et des centeniers, donc des guerriers. Puis la foule a reculé. Et ils ont saisi Paul, puisque manifestement, il était la cause de l'émeute. Là. Il était la raison. Donc, ils ont saisi Paul, ils l'ont enchaîné de 2 chaînes. Ça veut dire qu'il est, soit que ça veut dire aux pieds et aux mains, ou peut-être de chaque côté pour 2 soldats qui le traînaient. Mais on voit que la prophétie de Agabus s'est réalisée. Mais ce jour-là, la foule, finalement, aurait tué Paul. Son propre peuple l'aurait mis à mort. Mais Dieu est intervenu par les Romains, par les ennemis du peuple juif, l'envahisseur. Mais Dieu a utilisé les Romains pour sauver Paul, le sortir de la violence et de la rage de la foule. Donc, le plan de Dieu ce jour-là, ce n'était pas que Paul meure, c'était que Paul soit arrêté. Et même à cause du bruit, puis parce que le tribun ne peut pas faire son enquête sur place, il est forcé de le sortir pour mieux comprendre ce qui se passe. Et en faisant ça, il sauve Paul de la violence de la foule. Ils doivent le porter même. Donc, on voit vraiment l'intervention de Dieu qui utilise les Romains pour sauver Paul. Et le plan de Dieu, c'était que le ministère de Paul n'arrête pas là, ce jour-là, mais finalement qu'il soit envoyé ailleurs. Il ne pourrait pas, comme il le souhaitait, passer beaucoup de temps à Jérusalem pour évangéliser les Juifs. Maintenant, l'évangélisation va se faire dans le milieu des Romains. Donc, il va suivre beaucoup de personnages dans l'armée romaine, dans l'Empire romain, allant jusqu'à Rome, jusqu'à la ville de César. Donc, le plan de Dieu est surprenant et ça devait passer par une arrestation. Mais ça coûte à Paul, c'est ça, sa liberté. Et selon le récit du livre des Actes, il ne retrouvera plus jamais la liberté. Il va être lié jusqu'à la fin du livre des Actes. On ne sait pas, tout porte à croire qu'à la fin du livre des Actes, il va rester en prison pour y mourir, mais peut-être qu'il a sorti encore pour continuer son évangélisation, on ne sait pas. Ça lui coûte la liberté ce jour-là, mais Paul avait déjà de toute façon renoncé à sa liberté en voulant obéir à Dieu de tout son cœur. Quel bon modèle pour nous, Paul, un imitateur de Christ. Et lorsque la Bible nous dit d'être nous-mêmes des imitateurs de Jésus, on comprend un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Entre autres par ces trois qualités-là. Donc, essayons d'être de tout cœur, mettons tous nos efforts à imiter Jésus à la manière dont Paul l'a imité. Premièrement, en recherchant l'unité. Ça doit être une valeur très forte chez nous. C'est naturel pour des chrétiens qui sont des chrétiens de longue date, mais on peut même l'oublier. Mais ce qui est précieux pour Dieu et ce qu'il nous demande de tenir comme précieux, c'est que dans l'Église, nous soyons unis. C'est tellement facile de provoquer des chicanes, des divisions, parfois même au sein du conseil d'anciens. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment veiller, parce que inconsciemment, sans le vouloir, on peut provoquer des divisions. L'unité n'est pas quelque chose qui se crée automatiquement et qui se conserve non plus automatiquement. On doit y travailler pour l'établir et la maintenir. Ça demande des efforts. Et il faut se relever les manches pour veiller à l'unité, que personne ne soit laissé pour compte, que personne ne soit rejeté, que nous-mêmes, dans notre cœur, on ne rejette personne. C'est normal qu'il y ait des groupes dans l'Église, selon les âges ou les langues maternelles ou la proximité où on habite. Ou les intérêts même, c'est correct. Mais aucun groupe ne devrait être fermé, hermétique, et que personne n'a le droit d'y entrer. Ça ne devrait jamais non plus provoquer des séparations, des divisions. Soyons aussi des imitateurs de Jésus en étant humbles, comme Jésus l'était, comme Paul l'a été. Une manière très, très directe de le faire, c'est de rendre gloire à Dieu pour tout. Tout ce que nous-mêmes nous accomplissons, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Même le salaire qu'on gagne par la sueur de notre front, par notre travail, même lorsque notre patron peut nous féliciter pour un bon travail qu'on a fait, de rendre gloire à Dieu, d'être vraiment conscient, sincèrement, que c'est Dieu qui nous donne tout cela. C'est Dieu qui nous donne même la capacité de travailler. Tout le service qu'on fait dans l'Église, de rendre gloire à Dieu. Les bonnes finances qu'on a eues à l'Église de Rosemont en 2020, c'est tout à la gloire de Dieu. Même si c'est chacun de nous qui avons donné, c'est Dieu qui a été fidèle pour répondre et nous pousser à donner, et qui nous a donné tous ces moyens financiers. Donc, vraiment, de rendre gloire à Dieu et de le témoigner par des actions de grâce, de le louer de tout cœur et de partager des sujets de louange avec nos frères et sœurs. Donc, ça, c'est une marque d'humilité que de glorifier Dieu. Et une autre marque d'humilité, c'est de respecter ceux qui sont placés en position d'autorité parmi nous, ou les décisions d'un comité, si on fait partie d'un comité, de respecter, d'écouter les recommandations des anciens lorsqu'ils nous indiquent, recommandent telle ou telle chose dans notre vie, d'être assez humble pour faire cela. Et troisièmement, d'être un modèle de renoncement à soi-même. Donc vraiment d'imiter Jésus dans le fait qu'il a renoncé à lui-même, à ses propres intérêts, à ses droits, et s'il le faut même, à notre liberté. Mais que rien ne fasse obstacle à l'évangélisation, que les gens dans la population avec qui nous avons un contact, soit par le comptoir alimentaire ou autre, ne soient pas choqués par notre comportement, par notre langage, et que ça ne fasse pas obstacle à la possibilité qu'on a de leur présenter l'Évangile. Et que, aussi par notre comportement, même parfois c'est pour revendiquer nos droits, mais on peut faire chuter un frère dans le péché, ou tomber quelqu'un, un de nos frères, dans le péché, de nous juger, de nous condamner. Ou lui-même, s'il pense que la chose est mauvaise, et en nous imitant, il peut lui-même tomber dans ce péché-là, qui va contre sa propre conscience. Donc, mettons-nous des limites là, dans notre liberté, volontairement, renonçons à des droits pour le bien de l'Église et pour le bien de l'évangélisation. Et s'il le faut, soyons prêts à subir la persécution même, pour le nom de Jésus. Et, mes frères, il y a une persécution qui s'en vient bientôt, je le crois, à moins que Dieu intervienne pour changer les plans du gouvernement, mais le projet de loi C6, qui risque de passer très bientôt, là, c'est un projet de loi, même peut-être cette semaine, un projet de loi qui vient criminaliser les thérapies de conversion, c'est-à-dire une thérapie où quelqu'un serait contraint, donc contre sa volonté, il subirait une thérapie pour le faire changer d'orientation sexuelle, par exemple, ou le convaincre que s'il est né dans un corps d'homme, qu'il est du sexe masculin, qu'on ne peut pas choisir son genre, ou des choses comme ça, ou que si cette personne est une femme, qu'elle ne devrait pas s'habiller comme un homme ou subir une opération pour changer de sexe. Donc, ces thérapies-là, si la loi passe, vont devenir illégales, et ça va inclure aussi de convaincre un enfant de cela. Le projet de loi vise des thérapies contre des personnes, contre leur gré, ou des thérapies envers les enfants, mais la manière dont l'énoncé de loi est écrit, ça ouvre la porte à beaucoup plus large que ça. Et éventuellement, on pourrait être poursuivi en tant que chrétien pour avoir prêché que Dieu n'aime pas l'homosexualité, ou d'avoir dit à nos enfants, en tant que parents, on pourrait être accusé au criminel pour avoir dit à nos enfants qu'un petit garçon est du sexe masculin et qu'une petite fille, c'est du sexe féminin, qu'on ne choisit pas soi-même le genre, mais qu'on est né avec le genre que Dieu a décidé pour nous. Et que plus tard, si on veut se marier, c'est un gars avec une fille. C'est ça le mariage selon Dieu. Si on dit ça à nos enfants, on pourrait être accusé aux criminels de les avoir endoctrinés ou d'avoir créé des préjudices à leur égard. C'est pas ce que la loi vise directement, mais quelqu'un pourrait utiliser cette loi-là pour cela. Et c'est les juges qui vont l'utiliser, ça va faire jurisprudence, mais ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on nous interdise de prêcher ce que la Bible dit à propos de l'homosexualité, à propos du mariage. Et ça ne m'étonnerait pas que des chrétiens aillent en prison, ça ne m'étonnerait pas un jour d'aller en prison. Mais est-ce qu'on va se taire ou commencer à enlever des bouts de la parole de Dieu parce que la population considère que c'est un texte haineux? Même dans l'article de loi, on dit que cette pensée-là là, que l'on prêche, c'est un mythe. Ils appellent ça un mythe. Ben, je ne vois pas qui ils sont pour déterminer que c'est un mythe. C'est le Créateur qui nous a créés comme cela. Là. C'est une folie que de vouloir aller contre la nature du Créateur. Mais de dire ça un jour pourra être considéré comme criminel. Mais soyons des imitateurs de Paul, des imitateurs de Jésus, dans le fait qu'ils ont renoncé, ils étaient prêts à mourir pour la cause de Christ s'il le fallait, et certainement de faire de la prison ou d'être battu, même comme Pierre le dit, c'était même un privilège en fait, c'est un sujet de joie. Et lorsqu'on subit la persécution, on n'a pas vraiment goûté à ça ici au Québec, là, mais plusieurs en témoignent que c'est une occasion vraiment d'être plus près du Seigneur. Et ça va faire en sorte justement de souder l'Église, de la rendre plus unie. Et ça va ouvrir des portes à l'évangélisation. C'est étonnant, mais on le voit ici que la persécution contre Paul va finalement ouvrir des portes qui ne se seraient pas ouvertes d'une autre manière. Donc, la volonté de Dieu est toujours bonne et les plans de Dieu sont insondables, mais faisons confiance que tout arrive pour le bien, pour une bonne chose. Et je vous invite à prier tout de suite pour ce sujet délicat de la loi C6. Seigneur Dieu, tu vois le pays, la population qui suit cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle philosophie, alimentée par les groupes LGBTQ, qui ont une haine évidente face à ta parole, la Bible, et aux chrétiens qui la professent, à la foi chrétienne. Il y a une guerre qui est ouverte, Seigneur. Et nous, on veut garder un bon comportement. On ne veut pas pécher dans cette situation-là. On veut rester soumis aux autorités Mais Seigneur, tu vois qu'on ne pourra pas rester soumis aux autorités dans ce domaine-là si on vient nous dire qu'on ne peut plus prêcher la Bible ou ton enseignement. On vient à notre aide. Empêche, Seigneur, le pays de s'enfoncer de plus en plus dans le péché, dans cette mauvaise direction qui est prise, sur plusieurs sujets, sur le sujet de l'avortement, de l'euthanasie. Et maintenant, ce qui concerne le genre, interviens, Seigneur, pour empêcher, pour bloquer ce projet de loi, que ça ne passe pas. Garde, Seigneur, la liberté que nous avons eue jusqu'à maintenant d'enseigner à nos enfants, selon nos valeurs, selon les principes bibliques, et d'enseigner la Bible, la parole, ta parole, Seigneur, ouvertement. Permets qu'on puisse garder ce privilège-là. Donne-nous, Seigneur, d'agir avec courage pour toujours viser l'unité de l'Église en gardant une attitude humble, même face à la persécution, et à être prêt à renoncer à tous nos droits, sachant que, de toute façon, nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs, Seigneur Dieu. Donc, interviens dans nos cœurs pour rendre tout cela possible. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.